Bonjour à nouveau et aux auditeurs et aux internautes. Et bienvenue dans ce huitième et dernier cours du cycle sémantique mécanisée, où je vous propose de prendre un petit peu de recul ou de généraliser un petit peu par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici et de nous intéresser non plus juste au langage de programmation et leur mécanisation, mais aussi un peu aux logiques. Et en particulier les logiques des assistants à la démonstration. Donc la démarche qu'on a suivie jusqu'ici, donc, c'est une introduction aux sémantiques formelles des langages de programmation et à leur utilisation pour construire et valider des outils de programmation et de vérification, système de type logique de programme, analyse statique, compilateur, et on mécanise ça avec l'assistant de preuve Coq. Et donc là, il y a deux parties sur lequel je voudrais rebondir. Premièrement, construire et valider des outils. Deuxièmement, mécaniser avec l'assistant Coq. Essentiellement, Coq est un outil aussi dans notre travail, un outil de programmation, un outil de vérification. Et c'est assez naturel de se demander quelle confiance on peut accorder à cet outil. Et de manière un peu plus positive, quel formalisme permettrait de valider cet outil de la même manière qu'on a validé des systèmes de type, des logiques de programme, etc. Et alors, ce genre de questionnement, ça s'inscrit dans des questions plus générales sur quelle confiance peut-on accorder à une démonstration mécanisée sur machine. Comment est-ce qu'une démonstration mécanisée peut être fausse? Alors, il y a un article de Andy Pollack qui décrit justement un certain nombre de choses auxquelles il faut faire très attention, donc qui prend ce point de vue sceptique. Et je vais vous en citer quelques risques possibles. Le plus gros risque, vraisemblablement, c'est l'inadéquation. Donc, on a déjà un petit peu parlé d'adéquation dans le cadre du séminaire. L'inadéquation, c'est ce qui est démontré sur machine n'est pas ce que vous croyez. Peut-être qu'il y a une définition qui ne correspond pas exactement. Peut-être en transcrivant une formule logique, vous êtes trompé, vous avez mis des parenthèses au mauvais endroit, et du coup, un énoncé qui semblait très puissant est en fait assez faible. L'exemple extrême, c'est ce poisson d'avril qui avait été publié sur la liste Coq il y a une dizaine d'années, disant « voici une preuve du grand théorème de Fermat en Coq ». Et si vous la passez dans le vérificateur de preuve Coq, le Coq-C, la commande Coq-C, le Coq-C va dire « il n'y a pas d'erreur ». Alors comment c'est possible? On commence à lire l'énoncé, qui semble être vraiment l'énoncé du théorème de Fermat. Et puis le script de preuve, qui est essentiellement la tactique triviale de Coq, c'est une tactique qui ne fait pas grand-chose, donc on n'arrive vraiment pas à comprendre comment Coq peut accepter cette démonstration. Et en fait, il ne l'accepte pas parce qu'il ne la voit pas. L'astuce, c'est qu'ici, vous avez des doubles guillemets, et là aussi, ce qui fait que ce double guillemet ouvre une chaîne de caractères qui s'étend jusque là, d'accord, masque cette fin de commentaire. Et donc, en fait, là, vous avez un commentaire qui contient une chaîne de caractères et qui se termine ici. Et donc, tout ce que Coq vérifie, c'est le chargement de la bibliothèque ARIT. Et l'énoncé et la preuve dont vous êtes si fiers n'ont jamais été vérifiés. Bon, avouez que c'est habile. Deuxième risque courant, c'est les démonstrations incomplètes. Donc, vous avez admis certaines parties ou bien vous avez ajouté des axiomes qui se révèlent être faux. Ou plus subtil, faux en eux-mêmes, ou plus subtil, incohérent, peut-être avec d'autres axiomes ou d'autres parties du système, et vous n'êtes pas conscient, n'étiez pas conscient de cette difficulté. Par exemple, il y a une option obscure dans Coq qui s'appelle imprédicatif 7, qui rend le Coq un petit peu plus puissant comme langage de programmation, qui rend le polymorphisme imprédicatif. Et cette option est incohérente avec la logique classique, donc avec les axiomes du tiers exclu, notamment, qui sont disponibles dans la bibliothèque de Coq. Ils ne sont pas chargés par défaut, mais il suffit de les charger pour avoir la logique classique. Et donc, il faut bien faire attention à utiliser l'un ou l'autre, mais pas les deux. Troisième point qui pourrait invalider votre démonstration sur machine, c'est un bug dans l'implémentation du système Coq lui-même. Alors, pas dans n'importe quelle partie, dans une partie critique. Donc, Coq suit une architecture qui est due à Nicolai de Bruyne, lui aussi, qui date du système automate, où l'idée que la plus grande partie du système, ça va être des tactiques qui vont construire des termes de preuve, d'accord ? Donc un résumé, une représentation de bas niveau de ce que c'est que la démonstration. Et ces démonstrations de bas niveau vont être systématiquement revérifiées par un noyau, donc par une petite partie du système qui est vraiment la partie critique. Donc c'est ce qu'on appelle en sécurité les trusted computing base, les bases de confiance, l'idée qu'il faut avoir minimiser la taille de la base de confiance, les parties du système sur lesquelles repose vraiment la sécurité. Donc c'est tout à fait le même raisonnement ici. Et puis, une quatrième possibilité, c'est une incohérence dans la logique implémentée par Koch qui lui permettrait de démontrer des choses fausses. Alors ça, c'est ce qui fait fantasmer le plus. C'est vraisemblablement ce qui est le moins, enfin c'est ce qui est le moins vraisemblable, mais c'est certainement ce qui fait réfléchir le plus. Ces questions de est-ce que la logique est cohérente ou non agitent les mathématiciens depuis la fin du XIXe siècle, depuis l'apparition des premiers paradoxes en théorie des ensembles naïfs, le paradoxe de Russell au début des années 1900. Est-ce que l'ensemble de tous les ensembles appartient à lui-même? Oui, non. Bien sûr, on a envie de reposer la question pour la logique implémentée par Koch ou par Isabelle Achoël ou par tous ces outils d'assistants de preuve. Alors parlons un peu de cohérence d'une logique, et comment ça se définit, comment ça peut se démontrer. Donc une logique est cohérente si elle ne peut pas déduire un paradoxe ou une absurdité évidente. Alors, par exemple, en logique classique, une absurdité, c'est P et non P. Donc, en même temps, une proposition P est vraie et est fausse. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un paradoxe. En logique intuitionniste, on a une représentation de l'absurdité, le terme qui est noté false en Koch, qui sert à définir la négation. Non P, c'est P implique l'absurdité. En arithmétique de Peano, par exemple, l'absurdité typique, c'est 0 égale 1. On veut absolument que notre arithmétique distingue les entiers 0 et 1. 2 et 3 et 4 aussi, c'est bien, mais déjà 0 et 1. En logique d'ordre supérieur, on peut énoncer la proposition. Pour toute proposition P, P est vrai, et celle-là, c'est une absurdité. Et alors, de manière équivalente, même si ce n'est pas complètement évident, au premier coup d'œil, une logique est cohérente s'il existe une proposition qui n'est pas déductible dans la logique. Alors pourquoi ça ? Pourquoi c'est équivalent ? Parce que à partir d'un paradoxe, à partir d'une absurdité, vous avez en général le principe, une règle de la logique, le principe ex falso quod libet, à partir du faux, on peut déduire ce que vous voulez. Et donc à partir d'une de ces absurdités, on va pouvoir déduire toutes les propositions. D'accord ? Donc s'il y a une absurdité, toutes les propositions sont déductibles, symétriquement, si toutes les propositions sont déductibles, les absurdités aussi. D'accord. Alors, oui, c'est quoi cette notion de déductible ? Donc, je pars du principe que la logique, elle est représentée par des axiomes et des règles de déduction. D'accord. Là, je vous ai donné les axiomes et les règles de déduction pour une logique intuitionniste. Donc on manipule des énoncés qui sont des séquents intuitionnistes. Donc à gauche, on a une liste d'hypothèses, donc des propositions qu'on suppose démontrer. Et à droite, on a donc les propositions qu'on peut déduire. Et les règles de déduction nous disent qu'est-ce qu'on peut déduire. Par exemple, l'axiome ici nous dit que si on suppose P, alors on peut déduire P. L'introduction de l'implication, si en supposant P on peut déduire Q, alors on peut déduire P implique Q. L'élimination, qui s'appelle le modus ponens, si on peut déduire que P implique Q et si on peut déduire P, alors on peut en déduire Q. Introduction de la conjonction, si on peut déduire P et indépendamment on peut déduire Q, alors on peut déduire la conjonction P et Q. Si on a pu l'élimination, si on a pu déduire P et Q, alors on peut déduire P et on peut déduire Q. Et puis, le ex falso quod libet dont on parlait, si on a pu déduire l'absurde, alors on peut déduire n'importe quelle proposition. Et donc maintenant, le jeu, si vous voulez montrer la cohérence de la logique intuitionniste, eh bien, c'est d'exhiber un certain énoncé P et de démontrer qu'on ne peut pas le dériver dans le contexte vide avec ces règles. Alors bien sûr, si on a un contexte non vide, on peut toujours supposer P et puis dériver P, donc ce n'est pas très intéressant. L'idée, c'est est-ce qu'on peut dériver P sans aucune hypothèse supplémentaire ? Alors, ces démonstrations ne sont jamais faciles. Et il y a des raisons métathéoriques profondes à ça, en l'occurrence le second théorème d'incomplétude de Gödel. Vous connaissez sans doute le premier théorème d'incomplétude qui dit que dans toute logique suffisamment puissante contenant l'arithmétique, il existe un énoncé P tel que on ne peut pas déduire P, on ne peut pas déduire la négation de P. Donc il existe un P dont on ne sait pas quel est le statut logique. Et en fait, il y a un quasi corollaire de ça, qui est le deuxième théorème d'incomplétude, qui dit que si vous avez une logique donc, qui contient l'arithmétique de Peano et qui est cohérente, l'énoncé, la logique L est cohérente, peut s'exprimer à l'intérieur de la logique L, comme un énoncé de la logique L, via un codage arithmétique, dont Gödel a le secret, mais ne peut pas se démontrer dans L. Vous ne pourrez pas la dériver dans L. Donc cet énoncé, L est cohérent, c'est un de ces énoncés justement qu'on ne peut pas dériver dans L. Et le corollaire de ça, c'est que, alors c'est pas que c'est impossible de démontrer la cohérence d'une logique, mais que pour ce faire, il faut utiliser une logique qui est forcément plus puissante, d'accord, qui contient des choses en plus, qui ne sont pas dans la logique L qui vous intéresse. Et donc ça, c'était un peu le dernier clou dans le cercueil du programme de Hilbert, qui, lui, aurait voulu plutôt démontrer la cohérence de la théorie des ensembles dans l'arithmétique, d'accord, dans une logique beaucoup plus faible, beaucoup plus simple, beaucoup mieux comprise. Donc non, c'est pas possible. Et donc il faut au moins des moyens de raisonnement un peu puissants pour démontrer la cohérence d'une logique. Après, c'est pas pour autant que c'est impossible. On va voir d'ailleurs très vite une approche qui fonctionne très bien dans le cas des logiques qui en fait correspondent à des systèmes de type. Donc ça, c'est la correspondance de Curry-Howard dont j'ai beaucoup parlé l'an dernier dans le cours 2018-2019 de cette chaire. Donc je le résume pour ceux qui n'avaient pas, qui n'avaient pas suivi. Donc c'est l'idée qu'on peut mettre en correspondance des logiques et des langages fonctionnels typés en identifiant d'un côté les propositions de la logique aux expressions de type du langage et du coup les termes du langage typé, les programmes, deviennent des démonstrations, deviennent les fameux termes de preuve dont je parlais tout à l'heure dans Koch, ou ce que les constructivistes, Brouwer, Haitink, Kolmogorov, appelaient les constructions des propositions. Donc c'est des objets qui justifient qu'une proposition est dérivable, démontrable. Et la correspondance va jusqu'à l'évaluation, la réduction des programmes, qui, vu sous l'angle logique, correspond à ce qu'on appelle l'élimination des coupures, donc une procédure de normalisation, de simplification des démonstrations. Alors, ça, en anglais, ça fait un joli slogan, PAT, Propositions as Types, Proofs as Terms, d'ailleurs, ce serait plus joli. Et alors oui, justement, pour détailler un peu plus les propositions proposition égale type, les types de fonctions, sigma flèche tau, représentent les implications, P implique Q dans la logique, les produits, sigma croix tau, représentent le type des paires d'un sigma et d'un tau, représentent des conjonctions, P et Q, les sommes disjointes représentent des disjonctions, le type concret à un constructeur, unit, représente la trivialité, c'est un énoncé qui est trivialement vrai. Et le type concret à zéro constructeur, empty, représente l'absurdité. Et puis les quantificateurs, pour tout il existe de la logique, ont aussi des équivalents au niveau des types, typiquement pour expliquer le polymorphisme et l'abstraction de type. Et du coup, il y a aussi une correspondance étroite entre les règles de déduction de la logique et les règles de typage du langage. Donc là, je vous ai marqué les règles du lambda calcul simplement typé, avec des produits et un type vide. Donc vous reconnaissez la règle donc pour les variables, en supposant que x est le type A, x est le type A, la règle pour les lambda abstraction, qui ont le type A flèche B, si en supposant que x est le type A, m est le type B, la règle de l'application, la règle de formation des paires, donc M, N, la paire M, N a le type A croix B, si M a le type A, N a le type B, les règles pour les projections, pi 1, pi 2, qui projettent la première à la deuxième composante d'une paire, et puis la règle d'élimination du type vide. Donc si vous avez un terme M de type vide, vous pouvez faire une analyse de cas, dessus, et comme il y a zéro constructeur, il y a zéro K, et cette analyse de K, elle a pour type n'importe quel A. Et ben maintenant, en clignant un peu des yeux, vous retrouvez exactement les règles de la logique intuitionniste. D'accord ? Il suffit d'effacer les termes en rouge, et puis de simplifier un peu les contextes, en oubliant les noms des variables, en ne gardant que leur type, et il reste exactement les règles qui déduisent, des règles de déduction qui définissent la logique intuitionniste. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'était mon bref rappel sur la correspondance de Curie-Howard. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour ces histoires de cohérence, de logique ? Eh bien, donc toujours avec les lunettes de Curie-Howard, une proposition P est démontrable dans la logique si le type correspondant tau est habité, c'est-à-dire s'il existe un terme clos M de ce type dans l'environnement vide. D'accord ? Ça, ça veut dire qu'il existe une dérivation de typage qui se conclut par machin de point tau, et en effaçant les parties termes, il nous reste juste tau, la proposition qu'on voulait dériver. Bon. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire que la logique est cohérente ? Ça veut dire qu'il existe un type qui n'est pas habité, un type qui est vide, un type où il n'y a aucun terme clos de ce type. Bon. Donc voilà une autre manière de poser le problème, mais qui nous plaît bien, à nous, les gens qui venons du monde des langages de programmation, et qui nous plaît d'autant plus qu'on va pouvoir appliquer des choses qu'on a déjà vues au cours précédent. Donc au cours précédent, on a vu cette technique un peu systématique pour montrer qu'un système de type est sûr, c'est-à-dire qu'un programme bien typé soit termine sur une valeur, soit boucle, mais soit diverge, mais ne bloque pas sur une erreur de type à l'exécution. Et en fait, en rajoutant un petit quelque chose à cette démonstration, on arrive à montrer qu'un type n'est pas habité et donc que la logique correspondante est cohérente. Alors, revenons donc sur la démonstration de la sûreté du typage et sur la petite chose en plus, petite ou grosse, enfin, ce qu'il faut y ajouter. Donc, la démonstration, elle s'appuyait sur deux lemmes essentiels. Il y avait la préservation du typage par les réductions. Si M est bien typé type tau et se réduit en N, alors N est bien typé avec le type tau. Et un lemme de progression qui dit qu'un terme bien typé, un terme clos bien typé, donc bien typé sans hypothèse, soit est une valeur, soit se réduit, mais n'est pas un terme bloqué. Et pour montrer cette progression, on avait besoin d'un lemme plus simple qui est sur les formes canoniques. Donc si vous avez une valeur qui est bien typé, une valeur close, donc bien typée dans l'environnement vide, son type détermine sa forme. Donc si elle est de type fonction, alors c'est une lambda abstraction. Si elle est de type produit, alors c'est une paire de valeurs. Et il n'est pas possible qu'une valeur close ait le type empty. Donc on a montré que on montre facilement que dans le type empty, il n'y a pas de valeur. Il n'est pas habité par des valeurs. Alors pourquoi ça ? Ben, il n'y a qu'à regarder les règles. Les valeurs dans ce calcul, c'est soit une lambda abstraction, soit une paire de valeurs. Une lambda abstraction, c'est un type flèche. Une paire de valeurs, c'est un type produit. Aucune règle qui s'appliquerait à des valeurs ne conclut ça un type empty. Donc pour les valeurs, c'est trivial, montrer qu'elles n'habitent pas le type empty. Maintenant, la question, c'est et les autres termes. Est-ce qu'on peut avoir un terme M qui n'est pas une valeur et qui habite le type empty ? Et pour répondre par la négative, on a besoin d'une quatrième propriété qui est la normalisation. Donc tout terme typable a une forme normale. Si M est bien typé, il existe un N tel que M se réduit en nombre fini d'étapes en N et que ce N ne se réduit pas davantage. Alors beaucoup d'auteurs demandent la normalisation forte, qui est que toutes les séquences de réduction issues de M sont finies. Il me semble qu'il suffit d'avoir une séquence de réduction issue de M qui est finie. Pour en déduire comme corollaire la cohérence logique, à savoir que le type empty n'est pas habité. Et la démonstration est d'une grande simplicité. Par contradiction, supposons donc qu'il y a un terme M, clos, qui habite empty, donc M a le type empty sans hypothèse. Par normalisation forte, ce terme il a une forme normale, grand N, qui ne se réduit pas. Par préservation, grand N a le type empty, puisque M ainsi que tous ses réduits ont le type empty. Par progression, soit n est une valeur, soit n se réduit. N ne se réduit pas, donc n est une valeur. Ce n'est pas un terme bloqué. Par forme canonique, on a une valeur de type empty. Ce n'est pas possible. D'accord ? Voilà une démonstration très simple. Alors, très simple, sauf que il y a quand même cette propriété de normalisation qu'il faut démontrer. Et c'est là, en fait, qu'est toute la difficulté de la démonstration. Et alors, j'essaie de vous donner des intuitions pour pourquoi, en fait, être cohérent, enfin, pouvoir diverger, c'est très, très lié à être incohérent, dans le cadre d'une logique. Empiriquement, la plupart des mécanismes qui rendent des langages de programmation Turing complets, et donc qui permettent d'écrire des programmes qui ne terminent pas, vont aussi rendre les logiques correspondantes incohérentes. L'exemple typique, c'est la récursion générale. En CAMEL, en Haskell, vous pouvez écrire cette fonction, lettre avec f de x égale f de x, et puis appliquer f à une constante quelconque. Et ça, ça a le type taux pour n'importe quel type taux. Donc en CAMEL, en Haskell, tous les types sont habités. CAMEL, Haskell sont incohérents comme logique. Ça n'empêche pas que ce sont d'excellents langages de programmation, c'est pas ça la question. Mais si vous voyez des gens qui essayent, par exemple, de faire des types dépendants encodés dans Haskell, soyez très prudents, parce qu'il y a des incohérences qui se cachent derrière ça, du fait même qu'en Haskell, on peut écrire des termes qui divergent. Bon. Et parce que si on commence à voir, à regarder ce terme comme une démonstration ou comme un principe de preuve, ça ressemble en fait à une récurrence mal fichue. D'accord, on se dit, bon, je veux montrer P. Donc, supposons P. Maintenant, je peux facilement montrer P. Donc, P. D'accord. Donc, P implique P, implique P. Et alors, bien sûr, ce n'est pas un principe, c'est pas une récurrence bien faite. Dans une récurrence, il faut que quelque chose décroisse, d'accord, à chaque étape de déduction. Et c'est là qu'arrive, justement, la terminaison. De la même manière que dans une récurrence qui termine, il faut que quelque chose décroisse. Bon. Premier exemple, donc. Deuxième exemple, les types algébriques à occurrence négative, qu'on a vu dans les codages HOAS, dans le séminaire. Donc, on avait dit que ce type inductif T, si on pouvait l'écrire, donc là, je l'ai écrit en coq, mais en coq, on ne peut pas. Mais donc, un type T qui a un seul constructeur qui prend une fonction de T dans T, dans ce type, vous pouvez coder le lambda calcul pur, et donc des calculs qui divergent, et donc des machines de Turing, et donc la récursion générale. Donc, clairement, il suffit d'avoir une définition de type comme ça, avec un T en occurrence négative, un T à gauche d'une flèche dans l'argument d'un constructeur, pour pouvoir écrire des calculs qui divergent. Et en changeant très légèrement cet exemple, en définissant un prédicat inductif, donc maintenant, pardon, ça doit être inductif ici, pas induction, en définissant un prédicat inductif P avec une occurrence négative, on obtient très facilement une contradiction. Donc on va définir la proposition P comme étant avec une règle d'inférence, qui est que si P implique faux, alors P. Et ça vous définit, si c'était accepté, ça vous définirait une proposition P équivalente à sa négation, P implique false. Et ça implique très très rapidement false, et donc la logique est incohérente. D'accord ? Voilà, donc d'où l'importance de la normalisation quand on veut en particulier démontrer la cohérence d'une logique qui suit le modèle de Curie-Howard, la correspondance de Curie-Howard. Alors, juste pour vous donner quelques idées de comment on démontre la normalisation, alors il y a plusieurs manières, celle que je vais vous présenter, c'est celle qui est la plus généralement utilisée, qui remonte à des travaux de Tate en 1967 avec des types simples, qui a été étendue ensuite au système F, donc au polymorphisme par Girard en 1972. Et l'extension, comme on va le voir, est loin d'être triviale. Et ensuite, donc en 1985, Statman a identifié ça comme un cas particulier de relation logique, qui est un formalisme plus général introduit par Plotkin en 1973. Donc si vous voulez en savoir plus sur les relations logiques, j'avais fait un cours là-dessus l'an dernier, paramétricité et relations logiques. Mais l'idée est assez simple. Donc une relation logique, c'est des relations entre deux ou plusieurs termes qui sont indicées par des types, et on utilise la structure de type pour s'assurer que leur définition est bien fondée. Ici, on va faire des relations à un argument, c'est plutôt des prédicats logiques ou des ensembles. Donc on va définir des ensembles de termes paramétrés par un type taux. Et les ensembles en question, c'est ce que Tate appelle les ensembles réductibles, donc red de taux. Et l'idée est que c'est sur les types base, de base, iota, comme bool, nat, etc. Les termes réductibles, ce sont les termes qui terminent. Les termes normalisants, il existe une forme normale. Bon. Et sur les termes de fonctions, sur les types de fonctions, on va exiger un peu plus. Quand vous avez une fonction, ce n'est pas tout de savoir qu'en temps fini, elle va se réduire en une lambda. Donc vous avez une expression qui représente une fonction. Donc ce n'est pas tout de savoir qu'en un temps fini, elle va vous donner une lambda. Vous voulez aussi savoir maintenant si vous appliquez la lambda, vous appliquez la fonction, il ne va pas y avoir de divergence à ce moment-là. D'où cette définition des termes réductibles au type sigma flèche tau. C'est l'ensemble des m, tel que si vous les appliquez à un n réductible au type sigma, vous obtenez un terme réductible au type tau. Et par exemple, si sigma et tau, c'est boule, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est l'ensemble des fonctions m, tel que si vous les appliquez à une expression de type boule qui termine, vous obtenez une expression de type boule qui termine. Et alors cette définition, elle est bien fondée par récurrence sur le type, d'accord, puisque ici on ne dépend que de red pour des types plus petits. Vu comme un prédicat inductif, en revanche, elle ne serait pas bien fondée parce qu'il y a une occurrence négative ici de red. Donc c'est un petit peu subtil. C'est pas un prédicat inductif. En revanche, c'est une famille de prédicats définis par récurrence structurelle sur le type. Et du coup, eh bien, c'est gagné essentiellement. On démontre deux choses. Premièrement, tout élément de réductible d'un ensemble red de taux termine. C'est trivial s'il a un type de base. Et pour une fonction, c'est assez clair aussi, parce que si vous aviez une réduction infinie pour m, vous auriez une réduction infinie pour m appliqué à n. D'accord ? Donc tous les m qui appartiennent à un red de taux terminent. Et maintenant, on montre que si un terme m est bien typé de type taux sans hypothèse, alors il appartient à l'ensemble red de taux. Et là, la démonstration est un petit peu plus compliquée parce que pour pouvoir la faire par récurrence sur la dérivation de typage, il faut la généraliser à des contextes non vides et à des termes qui peuvent avoir des variables libres. Et donc pour ça, on regarde la forme du contexte avec n variables libres. On se donne des termes qui sont dans réductibles à chacun des types correspondants. On substitue les variables par ces termes réductibles. Donc là, on a clos le terme et on montre qu'il appartient à red de taux. Bon, donc ça, c'est la partie technique et ennuyeuse du résultat. Mais sinon, c'est une démonstration tout à fait élégante. Et alors, je ne voulais pas formaliser en coq, mais c'est fait dans un des chapitres de Software Foundations de Pierce. Et vous pourrez voir que la démonstration n'est pas très difficile. Alors maintenant, tout le jeu, c'est d'étendre ça à des systèmes de type plus riches, et pouvoir aller peut-être même jusqu'au système de type de Koch, soyons fous. Et alors, c'est plus ou moins difficile suivant le système de type que vous avez. Donc dans un système dit prédicatif, comme par exemple le polymorphisme en ML, ou même la théorie des types de Martin Löf, ou même AGDA, il y a une certaine structuration, stratification des types qui fait que le type pour tout alpha point tau vit dans une strate au-dessus du type tau et des types par lesquels vous pouvez remplacer alpha, vous pouvez instancier alpha. Et dans ce cas-là, on peut dire, bah d'accord, les termes réductibles à ce type pour tout alpha tau, ça va être les termes M tels que pour tout type sigma, si on les spécialise sur sigma, on obtient un terme réductible dans le type de l'instance qui est tau ou alpha remplacé par sigma. Et donc si on a suffisamment de stratification, cette définition reste bien fondée, parce que le type qu'on a ici, il est plus petit, il est dans une strate en dessous du type qui est là. En revanche, quand on est dans un système imprédicatif, comme système F ou certains morceaux de coq, alpha peut être instancié par tout type, y compris un type polymorphe pour tout alpha.tau. Et c'est même très naturel. Si vous avez l'identité polymorphe, d'accord, la fonction identité polymorphe avec ce type pour tout alpha, alpha flèche alpha, vous pouvez la spécialiser sur son propre type, et ça vous donne donc l'identité qui prend une identité polymorphe et vous rend une identité polymorphe, vous pouvez l'appliquer à elle-même, et ça vous rend une identité polymorphe. Et il n'y a pas de paradoxe, d'accord, il n'y a pas de circularité là-dedans, c'est tout à fait possible, mais c'est imprédicatif. Et là, si on utilise cette définition naïve, là c'est complètement faux. Parce que pour définir RAID au type pour tout alpha tau, on a besoin de RAID pour des types qui peuvent être le même type pour tout alpha tau ou plus grand. Donc ça ne va pas. Et l'idée de génie de Girard pour contourner ce problème, c'est de dire que non, c'est pas malin d'interpréter les variables de type alpha par des ensembles RAID de sigma pour un certain type sigma. Il faut pouvoir les interpréter par des ensembles un peu plus grands, un peu moins contraints. Et c'est ce qu'il a appelé les candidats de réductibilité. Et alors, il y a une définition technique des candidats de réductibilité. Je ne vais pas vous la lire. Bon, c'est des ensembles de termes qui normalisent et qui sont fermés par expansion, bêta-expansion, et par certaines bêta-réductions. Bon. Mais ce qui est important, c'est qu'on a un diagramme comme ça qui est vrai. À savoir que... donc, on a les termes bien typés. On veut montrer qu'ils sont dans les ensembles de termes réductibles, correspondant à leur type, afin de montrer que tout ça est normalisant. Et pour interpréter les variables de type alpha qui peuvent apparaître, on va les interpréter non pas par des ensembles de RAID, mais par des candidats, qui sont donc des ensembles un peu plus grands, mais qui sont toujours à l'intérieur des termes normalisants. Et du coup, quand on va instancier une RAID de type par un RAID de sigma, ce sera un candidat, et donc toute la récurrence va bien fonctionner. Et donc un peu plus formellement, voilà comment on définit les ensembles de réductibilité. Maintenant, on a un paramètre supplémentaire qui, à chaque variable de type, nous donne un candidat, un ensemble qui l'interprète. Donc, les premiers cas sont les mêmes qu'avant. Au type de base, c'est les termes qui terminent. Au type de fonction, c'est les types de fonctions qui envoient un réductible de sigma, qui appliquaient un réductible de sigma, vous donne un réductible dans tau. L'interprétation d'une variable de type, c'est le candidat correspondant. Et l'interprétation d'un pour-tout, c'est les termes tels que si on les spécialise sur sigma et qu'on interprète alpha par un candidat de réductibilité U, ils sont bien dans le réductible de tau. Et donc là, il suffit maintenant de démontrer que RAID de tau et de phi est toujours un candidat de réductibilité, ce qui implique d'ailleurs que tous les éléments terminent. Et enfin, on a de montrer que si M a le type tau, alors M est dans RAID de tau et de phi pour n'importe quelle phi. Voilà, donc comment on récupère cette preuve, même dans le cas de l'imprédicativité. Après, donc il y a eu diverses extensions vers des systèmes de type plus riches, et donc on va justement regarder un peu ce chemin, donc qui part du lambda calcul simplement typé, ajoute le polymorphisme qu'on a dans le système F, ajoute un certain nombre de choses, et arrive sur des logiques qu'on a envie d'utiliser, comme des logiques et des langages de programmation qu'on a envie d'utiliser comme Coq et AGDA. Alors, le chemin est un peu long, donc je vais essayer de vous parcourir les grandes étapes un peu rapidement. Il y a plus de détails dans un des cours de l'an dernier, le cours qui s'intitulait Polymorphisme à tous les étages. Donc là, c'est surtout un résumé. Donc on part du lambda calcul avec des types simples, où vous avez des fonctions, des termes dans les termes, auxquels vous pouvez donner des types, comme par exemple boule, flèche, boule, pour la négation booléenne. D'accord ? Et vous ajoutez le polymorphisme, donc la possibilité de quantifier universellement sur des variables de type, par exemple de parler de l'identité polymorphe, dont le type est pour tout alpha, alpha, flèche, alpha, que vous pouvez voir comme une fonction des types dans les termes. Vous lui donnez un type alpha, et elle se spécialise en l'identité sur ce type. Ensuite, vous ajoutez les opérateurs de type, c'est-à-dire les fonctions des types dans les types. Par exemple, list. List de nat, c'est un type. Donc list, vous l'appliquez à un type, ça vous donne un type. Et donc ça, c'est ce qui s'appelle F oméga dans les littératures. Ça a été introduit par Girard en même temps que, ou peu de temps après, système F. Et puis, vous ajoutez les types dépendants. Et ça, c'est les fonctions des termes dans les types. Par exemple, vous pouvez avoir un type vec de n, qui est des vecteurs de nombres réels de dimension n, par exemple. Donc vec, ça vous prend un nombre n, un entier naturel n, et ça vous rend un type. Et n, c'est pas un type, d'accord ? N, c'est un terme, n, c'est une valeur. Donc vous avez une fonction des termes dans les types. Et alors ces trois dimensions, ça, c'est Henk Barendrecht qui a eu l'idée de les décider sous forme d'un cube, donc qui s'appelle le lambda cube. Donc partant des types simples, vous avez ces trois dimensions d'extension, polymorphisme, type dépendant, constructeur de type. Et quand vous prenez les trois, vous obtenez le calcul des constructions, qui a été introduit par Thierry Coquand et Gérard Wett au début des années 80. Et alors on n'en est pas encore tout à fait à Coq. Ensuite, on ajoute des univers, une hiérarchie d'univers. Donc il n'y a pas juste des termes et des types. On a envie aussi parler des types de tous les types, enfin des types de types, on appelle ça des sortes, pardon. Et puis peut-être les sortes elles-mêmes, on veut leur donner des types. D'accord. Donc, et ça c'est tout à fait possible par une espèce de jeu d'écriture. On ajoute, on met ce qu'on appelle des univers, des strates. Par exemple, 0, qui est un terme, a le type nat, qui est un type simple, qui fait donc partie de la sorte type 0, de l'univers des types les plus simples, qui lui-même, cet univers, fait partie de l'univers des types 1, et puis ainsi de suite. D'accord. Donc ça rajoute de l'expressivité au système. Autre chose qui rajoute énormément d'expressivité, c'est les types inductifs, type et prédicat inductif. Donc pouvoir définir les entiers naturels par zéro successeur, pouvoir définir les listes par nil et cons, pouvoir définir des connecteurs logiques, comme la conjonction, comme une paire, la disjonction, comme un type à deux constructeurs, le il existe, comme un type un constructeur aussi. Donc tout ça devient possible en ajoutant les types inductifs. Et on peut aussi ajouter les types co-inductifs, ce dont on s'est servi pour raisonner sur la divergence, par exemple le type delay de A, qui représente un calcul d'une valeur de type A qui peut ne pas terminer, ou plus simplement les streams, le type des flux, des listes infinies de valeurs de type A. Et alors si on s'arrête là, on a à peu près AGDA, plus ou moins, et alors Coq rajoute quelques gadgets en plus au niveau des univers, la cumulativité et le polymorphisme, et je n'essaye même pas de vous raconter ce que c'est. Je ne sais pas si je m'en suis jamais servi, en fait. Mais voilà. Donc voilà à peu près comment on arrive jusqu'au système Coq tel qu'il est aujourd'hui. Alors, on va pas formaliser tout ça, ce serait un peu long. Mais quand même, juste pour vous montrer que c'est pas si horrible que vous le pensez, on va s'arrêter ici. On va regarder à quoi ressemble le calcul des constructions avec une hiérarchie de l'univers. Et en fait, c'est une instance d'une présentation élégante qui s'appelle les Pure Type Systems, qui a été inventée un peu après le calcul des constructions, le lambda cube, etc., comme une sorte de généralisation et de simplification a posteriori. Et l'idée des Pure Type Systems, c'est qu'on va simplifier en disant qu'il n'y a pas de distinction entre les termes et les types, il n'y a qu'une seule grammaire, il n'y a qu'un seul lambda pour toutes les formes de fonctions. Fonction des termes dans les termes, qui correspondent aux types simples, des types dans les termes qui correspondent aux polymorphismes, des types dans les types qui correspondent aux opérateurs, des termes dans les types qui correspondent aux types dépendants, il n'y a qu'un lambda. Toujours la grande idée de Church. Et de même, il ne va y avoir qu'un seul pi, un seul constructeur de type qu'on note pi, ou qu'on peut lire aussi pour tout, qui va regrouper à la fois les types de fonctions, les types quantifiés universellement, les types polymorphes. Et on va utiliser des univers pour stratifier tout ça et retrouver un peu ces petits entre termes, types, sortes, etc. Donc voilà la syntaxe, quand même relativement compacte. Donc on se donne des univers, des noms d'univers. Alors en Coq, il y a un univers un peu spécial propre pour les propositions logiques. Et puis, il y a des univers type 0, type 1, type 2, type 3, une infinité. Et vos termes, qui vont aussi servir de type dans certains contextes, A, B, ça peut être des variables, des abstractions, lambda x de type A, point B, B c'est le corps, des applications à appliquer à B, un nom d'univers, c'est une constante, c'est un terme, et un type dépendant de fonction, donc un type pi. Donc pi x de point A, point B, vous pouvez lire ça comme pour tout. Pour tout x de point A, je vous donne une valeur de type B, dans lequel x peut apparaître. Si x n'apparaît pas, ça devient un type de fonction, A flèche B. Vous me donnez un x de type A et je vous renvoie un B. Et voilà les règles de typage. Donc le miracle est qu'elles tiennent sur un transparent. Et il n'y a qu'un seul jugement de typage, donc sous des hypothèses, dans un certain contexte, un certain terme a pour type un autre terme. Donc là, ici, ce sera forcément des termes qui ont un sens en tant que type. Par exemple, sans hypothèse, un certain univers a pour type un autre univers si c'est dans cet ensemble A. Donc oui, il y a deux paramètres, grand A et grand R, qui gèrent comment les univers fonctionnent, dont on va parler juste après. Donc là, c'est ce qui dit à que certains univers appartiennent, ont pour type un autre univers. Ça, c'est la règle de base pour les variables. Si la dernière hypothèse de votre contexte, c'est que X a le type A, alors X a le type A, pourvu que A soit un type bien formé dans le contexte gamma. Et un type bien formé, c'est un terme qui a pour type un univers. Ça, c'est la règle d'affaiblissement. Si A a le type B dans un certain contexte gamma, vous pouvez ajouter une hypothèse inutile, X de point C à votre contexte, et A a toujours le type B, pourvu que C soit un type bien formé dans gamma. Ça, c'est la règle de formation des types produits. Donc, quand est-ce qu'un type pi est bien formé et quelle est sa sorte, quel est son univers. Donc, il faut que A soit un type bien formé dans un certain univers A1, U1, que sous l'hypothèse que X a le type A, B soit bien formé dans U2, et l'univers du résultat U3 est déterminé, enfin U1, U2, U3 doit être dans cet ensemble R qui détermine justement quels sont les pi qu'on peut former. L'abstraction. Une lambda abstraction a pour type un type de fonction dépendant. Donc x de point A, la fonction qui a x de point A associé B a pour type pour tout x de point A C, pourvu que le corps B est le type C, sous l'hypothèse que x a le type A et qu'on puisse former le produit. L'application, ben c'est la règle usuelle. Pour appliquer f à A, il faut que f ait un type de fonction dépendante, donc pi x A B. Les fonctions qui prennent un argument de type A et vous rendent un résultat x de type A et vous rendre un résultat type B de x. Il faut que l'argument petit a soit du type grand A. Et du coup, le résultat, il n'est pas juste du type B, il est du type B où x, le paramètre formel, est remplacé par l'argument effectif. Donc c'est ça la subtilité des fonctions dépendantes. Et puis la dernière règle, c'est la règle de conversion qui vous permet de changer le type. Si A, vous avez montré que A a le type B, et que B se convertit avec B', on va voir ce que ça veut dire tout de suite, alors A a aussi le type B'. Alors cette règle de conversion, elle n'est pas du tout présente dans le lambda calcul simplement typé ou dans le système F. Elle apparaît en fait dès qu'on peut faire des calculs dans les types, donc dès qu'on a F oméga, dès qu'on a des fonctions au niveau des types. Et elle ajoute une puissance d'expressivité considérable. Donc ce qu'il a dit, c'est que donc vous pouvez remplacer un type B par un type B' qui est identique à calcul près, à réduction près. Donc ça, cette notation, ça veut dire que vous pouvez obtenir B' à partir de B en faisant des réductions dans un sens ou dans l'autre, des réductions ou des expansions. C'est équivalent, à modulo la propriété de confluence, à ce que B et B' est un réduit commun. D'accord. Et donc c'est l'idée que B et B' sont égaux à calcul près. Alors pourquoi c'est utile ? Ben, par exemple, si vous faites de la programmation à type dépendant, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait cette sémantique dénotationnelle du lambda calcul simplement typé, on interprétait les types du lambda calcul simplement typé comme fun, bool, bool, par des types de coques. Et donc on avait une fonction, des types, des expressions de type vers les types de coques. Et par exemple, des types de fun, bool, bool, c'est égal par calcul au type bool, flèche, bool de coque. Il suffit de dérouler la définition de des types. Et donc, toute valeur de type bool, flèche, bool est aussi une valeur. Ces deux types ont les mêmes valeurs. D'accord ? Si vous avez une valeur de ce type, vous pouvez l'employer comme une fonction des booléens dans les booléens et symétriquement. Deuxième exemple, cette fois-là au niveau des propositions et non plus des types, mais rappelez-vous, c'est la même chose. La proposition 2 plus 2 égale 4, c'est la même proposition à calcul près que 4 égale 4. Parce que par définition du plus, vous allez le voir dans la bibliothèque standard de Koch, vous demandez à Koch de calculer, 2 plus 2, c'est bien égal à 4. Et donc, par calcul, donc 2 plus 2 égale 4, qui est une proposition, c'est la même proposition que 4 égale 4, et elles admettent les mêmes termes de preuve, les mêmes démonstrations. En particulier, il y a une démonstration triviale de 4 égale 4, qui est la réflexivité de l'égalité, d'accord ? Tout x est égal à lui-même. Cette démonstration triviale, c'est aussi une démonstration de 2 plus 2 égale 4. Il n'y a pas besoin de faire des étapes de déduction. Alors, d'un côté, c'est génial. Ça permet de nouvelles formes de programmation à type dépendant. Ça permet de nouvelles formes de démonstration, ce qu'on appelle les démonstrations par réflexion. On arrive à remplacer des étapes de déduction logique par des calculs. Et en général, c'est gagnant parce que la déduction logique, ça demande une recherche de preuves. C'est un procédé qui n'est pas forcément déterministe. On peut devoir essayer des choses et revenir en arrière. Le calcul, lui, est complètement déterministe. Il peut se faire par exécution brutale. Donc, c'est généralement plus gagnant de remplacer de la déduction logique par du calcul, si le système logique le permet. Après, c'est aussi un défi pour la métathéorie. On commence à avoir une circularité entre typage et calcul. D'accord ? On ne peut pas juste poser les règles de typage d'un côté, les règles de réduction de l'autre, et montrer ensuite des propriétés de cohérence. Et c'est aussi un défi pour l'implémentation du vérificateur de type. Le noyau de Koch, là, la chose qui vérifie qu'un terme de preuve prouve bien une proposition, ou de manière équivalente, qu'une définition, qu'un terme a bien un type donné. Ce morceau de code, cet algorithme, va avoir besoin de faire des évaluations pendant le typage, ne serait-ce que pour voir quand est-ce que la règle conv s'applique. Et ça peut être coûteux. Parfois, Koch met très longtemps à faire un QED, par exemple, ou à décider qu'une technique ne s'applique pas. Et ça, c'est parce qu'en fait, il est en train de réduire comme un fou pour essayer de montrer que deux choses sont égales, modulo calcul, alors qu'en fait, elles ne le sont pas, par exemple. Et ça, ça peut déclencher des calculs extrêmement coûteux, et surtout si on s'est trompé dans l'algorithme. Enfin, l'algorithme n'implémente pas la stratégie la plus efficace de réduction. Bon. Donc, voilà la grandeur et misère de la règle de conversion. Et alors, j'avais promis d'expliquer, de revenir un tout petit peu sur ces deux règles mystérieuses qui font intervenir les univers. Donc, il y a deux relations, A et R. Donc, A, c'est des ensembles de paires d'univers, R, c'est des ensembles de triplets. Et ça, en fait, c'est ces deux paramètres par lesquels on peut régler finement la puissance d'expressivité d'un système de type pur. Donc A, ça vous dit simplement quel univers appartient à quel univers. Donc quelle est la structure de la hiérarchie des univers. Donc en Koch, c'est très simple. Un type de niveau I appartient à l'univers immédiatement supérieur, niveau I plus 1. Et prop appartient à type de niveau 0, donc l'ensemble des propositions est quelque part tout en bas, le plus petit des univers. La relation R, elle détermine donc l'univers où vit un produit, en fonction des univers dans lesquels vivent ces deux composantes. Et l'idée de base de Koch, qu'on retrouve en Agda aussi, c'est que le produit vit dans le max, le plus haut de ces deux univers, le plus haut des univers de A et de B. Et ça garantit une certaine prédicativité du système. Mais Koch aime bien avoir de l'imprédicativité au niveau des propositions. Et donc, il y a ce cas particulier qui dit que pour former une proposition B, vous pouvez quantifier universellement par un pi sur n'importe quel objet, de n'importe quelle sorte U, donc de n'importe quel univers, même si c'est un univers beaucoup, beaucoup plus grand, et ça vous donnera toujours une proposition. Et donc, bien choisir le A et bien choisir le R, c'est essentiel pour la cohérence logique. Par exemple, si vous, dans votre ensemble A, vous dites qu'il y a un type qui appartient à lui-même, on a type 2.type, type 0 qui appartient à l'univers type 0, par exemple, alors vous pouvez encoder un paradoxe, paradoxe de Burali-Forti, qui dit qu'il y a un plus grand ordinal, un ordinal maximal, qui évidemment est contradictoire avec la définition même d'un ordinal. Et après, il y a des paradoxes plus subtils, comme le paradoxe de Girard, qui s'exprime dans un système qui est plus subtil, le système U, qui n'a que trois univers, et juste en permettant un produit pi qui ne va pas bien, on arrive quand même à avoir une incohérence logique. Voilà. Et donc, maintenant la question à laquelle, qui brûle vos lèvres, j'imagine, c'est bon, qu'est-ce qu'on peut mécaniser là-dedans ? Alors, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas essayé de mécaniser la métathéorie de ce système, c'est déjà un petit peu costaud, mais, et vous allez voir que c'est encore plus costaud d'étendre ça aux autres traits de Koch, mais j'ai juste fait un peu de littérature, de revue de littérature. J'espère n'avoir oublié personne. Si vous connaissez des travaux que j'ai oublié de citer, merci de me les dire. Donc, le premier travail, en ordre chronologique, que je voudrais mentionner... Oui, pardon, je reviens en arrière. Alors, bien sûr, il existe des preuves sur papier de la métathéorie de la plupart de ces systèmes et de leur cohérence. La question maintenant que je me pose, c'est est-ce qu'il existe, jusqu'à quel point ils ont été mécanisés. Donc, je commençais par le travail de Bruno Barras en 1996, qui s'appelait Coq en coq, donc qui a donné le titre à ce cours, qui est donc une formalisation complète du calcul des constructions en coq version 6. Alors, c'est une très vieille version de coq, et si vous lisez le rapport technique, vous n'allez pas vraiment reconnaître, la syntaxe a beaucoup changé, mais le développement est extraordinairement complet et inclut la normalisation, démontrer la normalisation, donc la cohérence logique, et également le développement d'un vérificateur de type, donc d'un algorithme qui est prouvé correct et qui est même extrait vers du code CAMEL exécutable, donc ce qui est joli. Donc Bruno Barras a continué ce travail dans sa thèse ensuite pour étendre avec des types inductifs, donc le calcul des constructions plus des types inductifs, ce qui demande pas mal de travail, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les types inductifs. En revanche, là, il démontre les mêmes propriétés sauf la normalisation. Donc, il n'y a pas de preuve de cohérence mécanisée. Et alors, il invoque, comme beaucoup d'autres auteurs, d'ailleurs, le second théorème de Gödel, la complétude de Gödel. Donc, autant ici, il n'y a pas trop de risques parce qu'on est en train de montrer la cohérence du calcul des constructions dans Coq, c'est-à-dire au moins le calcul des constructions plus les types inductifs et les prédicats inductifs. Et ça ajoute. C'est une logique nettement plus riche, on le sait, donc on a plein d'exemples. Donc, il n'y a pas de risque d'essayer de montrer qu'on soit en train de montrer le calcul des constructions cohérent à l'intérieur du calcul des constructions, ce qui ferait se retourner Gödel dans sa tombe. En revanche, ici, déjà, c'est moins clair. Donc, jusqu'à quel point la formalisation qu'a faite Bruno Barras utilise un système plus grand que celui qu'il a formalisé. Donc, et ce n'est pas une coïncidence complète qu'il n'y a pas de preuve de normalisation. Alors, là, je saute de nombreuses années en avant pour vous mentionner un tutoriel d'Arthur Charguerot. Donc, ça fait partie de son tutoriel sur la notation locally nameless, dont on a parlé au séminaire, la notation sans nom locaux, et où il y a des démonstrations, des formalisations et des démonstrations très claires pour un certain nombre de systèmes de type, donc type simple, type polymorphe, et calcul et construction plus univers. Alors, il ne va pas très loin, il s'arrête au théorème de préservation. Donc il n'y a pas toute la métathéorie loin de là, et en particulier il n'y a pas de tentative de faire la normalisation, mais le développement est extrêmement clair. Donc si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, CC plus univers mécanisé en coq, je vous recommande ce tutoriel. Et puis on saute à un travail, celui-là extrêmement récent, puisqu'il a été présenté le mois dernier à la conférence Popol, donc de Sozo, Boulier, Forster, Tabarot, Winterhalter, intitulé Coq correct, pardon, et sous-titré La vérification du typage et de l'effacement pour Coq en Coq. Et donc c'est une formalisation extrêmement complète, donc d'un langage qu'ils appellent PQIC. Je commence à être fatigué par ces blagues à base de volaille, mais bon. Donc PQIC, je vous informe que c'est le calcul des constructions inductifs polymorphes et cumulatifs. Tout le monde sait ça. Donc c'est essentiellement toutes les features, tous les traits distinctifs de Coq. Et d'ailleurs, leur formalisation utilise une syntaxe abstraite qui est extrêmement proche de celle qui est utilisée en interne dans le noyau de Coq. D'accord ? Donc simplement reflétée à l'intérieur de Coq. Et donc, c'est un développement extrêmement complet, sauf que, une fois de plus, il admet la propriété de normalisation. Donc, on n'essaye même pas de la démontrer. Et en revanche, il vérifie tout le reste de la métathéorie, en particulier donc, tout ce qui est préservation du typage dans la réduction, etc. Il formalise et prouve correct un vérificateur de type efficace, avec un réducteur qui est une méthode pour tester la convertibilité qui est assez efficace, qui ressemble à celle qui est dans le noyau de Coq, une de celles qui est dans le noyau de Coq, et même un algorithme d'extraction. Donc l'extraction, c'est quand vous prenez du Coq et que vous générez du CAMEL. Donc c'est comment produire un terme non typé ou simplement typé qui a le même contenu calculatoire. Donc voilà, donc on y est presque, à Coq en Coq, sauf ce petit problème, entre guillemets, de normalisation, qui malheureusement correspond à la cohérence logique. Donc, quelque part, il y a encore du travail. Alors, si on regarde un peu ce qui se fait plutôt en Suède, donc dans le monde AGDA, donc, là aussi, ça phosphore beaucoup sur comment est-ce qu'on pourrait mécaniser en AGDA des fragments de AGDA, typiquement des fragments de la théorie des types de Martin Löf, qui est le formaliste fondateur d'AGDA. Et ce qui est intéressant aussi, c'est en utilisant des approches assez différentes de ce qu'on a vu jusqu'ici, typiquement des syntaxes abstraites typées intrinsèquement, donc si vous vous souvenez du cours précédent, donc cette idée qu'on peut refléter le système de type du langage qu'on étudie à l'intérieur du système de type du langage avec lequel on fait l'étude. D'accord. Et du coup, on manipule des termes qui sont bien typés par construction. On ne peut pas parler de termes mal typés. Donc, en utilisant des approches comme ça, et aussi d'autres approches pour montrer la normalisation. Donc, la normalisation, on peut montrer que les séquences de réduction sont finies, mais on peut aussi raisonner de manière plus abstraite, par exemple, en sortant de son chapeau un évaluateur, une fonction qui calcule quelque chose qu'on dit être une forme normale, et montrer d'un côté que cette fonction termine toujours, et de l'autre qu'elle calcule bien une forme normale. Et ça s'appuie sur des techniques de normalisation par évaluation, par exemple. Bon. Donc j'ai pas voulu prendre le temps de vous en parler aujourd'hui, on aurait sans doute un peu débordé. Bref, donc en suivant ce genre d'idée, donc il y a un des premiers articles que j'aime beaucoup en raison de son titre, de Chapman, Type Theory Should Eat Itself, qui est tout un programme. La théorie des types devrait pouvoir s'avaler elle-même. Et donc, il travaille justement vers cet algorithme de normalisation pour la théorie des types de Martin Löf, MLTT, en utilisant de la syntaxe intrinsèquement typée. Et cette approche a été pas mal développée 10 ans après dans cet article de Abel et de ses co-auteurs. Donc cette fois-là, ce n'est pas un algorithme de normalisation, c'est un algorithme qui teste, qui décide la convertibilité, donc c'est encore plus utile, et qui est fait pour les types dépendants avec un univers, donc ce n'est pas toute la théorie des types de Martin Löf, mais c'est quand même un système impressionnant. Et c'est codé en AGDA, ou plus exactement, en théorie des types de Martin Löf, plus type inductif, plus les définitions inductives récursives. Donc ça, c'est un trait intéressant d'AGDA qui n'est pas dans Coq. Vous pouvez en même temps définir un type inductif avec des constructeurs et une fonction récursive qui récurse, fait une analyse de cas et qui récurse sur les valeurs de ce type. Et puis, troisième exemple de travail dans cette direction. Encore une fois, la liste n'est sûrement pas exhaustive. Donc cet article de Altenkirch et Capossi, où donc ils essayent de spécifier la théorie des types de Martin Löf avec une syntaxe intrinsèquement typée à l'intérieur d'une théorie des types de Martin Löf qui en plus a des types inductifs quotients, c'est-à-dire, donc ça c'est un cas particulier des types inductifs d'ordre supérieur que vous trouvez dans la théorie des types homotopiques. Donc ça aussi, vous pouvez vous reporter un des cours de l'an dernier qui parlait de l'homotopie, de l'égalité, en fait. Donc la théorie des types homotopiques, c'est une extension de la théorie des types où on a des principes plus puissants pour raisonner sur l'égalité. Les types inductifs d'ordre supérieur, c'est des types inductifs qui incluent dans leur déclaration des égalités. Et les types quotients, c'est un cas particulier de type inductif qui, justement, permet de définir des inductifs et en même temps les quotienter par certaines égalités. Et donc, d'après Altenkirch et Capossi, ça peut aider à définir une syntaxe intrinsèquement typée de la théorie des types dans laquelle la conversion est vraiment prise en compte dès le début. Voilà. Et donc je crois que c'est à peu près ça l'état de l'art. Donc vous voyez qu'il reste encore du travail. Si on veut vraiment que les assistants à la démonstration se dévorent eux-mêmes. Et la question reste semi-ouverte, donc de savoir si on peut mécaniser complètement, donc y compris la démonstration de cohérence, un bon fragment de la logique d'un assistant à la démonstration dans un fragment à peine plus gros. Donc bien sûr, toujours pour respecter le second théorème de M. Gödel, on ne peut pas rester dans le même fragment, mais une conjecture, c'est que peut-être on n'a pas besoin de grand-chose de plus. Quelques univers supplémentaires, vous voyez une petite extension comme ça, qui fait que vu de loin, ça ressemble quand même à l'Ouroboros, et on a l'impression que le système s'est démontré lui-même. Voilà, donc je vais vous laisser sur cette considération. Il y a quelques... un petit peu de bibliographie, si vous voulez aller plus loin. Et quand même, parce que je suis un incorrigible bavard, je voudrais faire un petit bilan sur l'ensemble du cours. Ça va aller très vite. Et après, je vous propose de discuter librement du cours qu'on vient de voir et aussi peut-être de l'ensemble du cours. Donc, le petit bilan. Donc, qu'est-ce qu'on a étudié pendant ces 8 séances ? Donc, comment formaliser la sémantique d'un langage de programmation ? Toujours en utilisant un assistant à la démonstration, à savoir Coq, principalement des approches opérationnelles, on en a vu plein, à réduction, à contexte, naturel, par interpréteur borné, un peu de sémantique dénotationnelle. On a vu comment est-ce qu'on vérifie et comment est-ce qu'on transforme des programmes avec des, en définissant des systèmes de type, en définissant des logiques de programme, en définissant des analyses statiques, en définissant des transformations de programme, tels que les font les compilateurs, donc des traductions en code machine, des optimisations, essayer d'améliorer les performances du code. Et puis, de manière assez systématique, on a utilisé les sémantiques pour démontrer sur machine la sûreté des vérifications et la correction des transformations. Si un système de type dit que votre programme est bien typé, alors il ne va pas planter à l'exécution. Si votre logique de programme donne une certaine précondition à votre commande, alors elle sera toujours vraie pendant les exécutions, etc. Et si vous compilez un programme qui calcule la fonction factorielle, le code machine calcule la fonction factorielle et pas la fonction de Fibonacci. Donc voilà le genre de choses qu'on a faites. Et donc j'ai voulu utiliser, j'ai voulu que tous les résultats soient mécanisés et utiliser Coq comme assistant à la démonstration. Essayons de faire le bilan. Pour moi, le plus gros avantage, c'est que les définitions sont précises. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'oubli. Elles sont claires et elles n'ont pas d'erreur dedans. Vous m'envoyez régulièrement des fautes de frappe dans mes transparents. Vous n'avez encore jamais envoyé jamais relevé une typo dans un développement Coq. Dans un de mes développements Coq. Alors, quand je dis des définitions claires, je veux juste faire une exception, c'est sauf quand il faut parler des variables liées à l'intérieur d'un langage fonctionnel, par exemple, ou, comme on l'a vu à nouveau ce matin, c'est pas si clair que ça. Les démonstrations sont laborieuses, je suis le premier à reconnaître, les scripts de preuve Coq, c'est pas bien agréable, mais personne n'est obligé de les lire. Ce qu'il suffit de lire, c'est les énoncés intermédiaires, les définitions intermédiaires, donc les lemmes, les définitions intermédiaires. Et ça, ça donne déjà une image très claire de ce qu'est la démonstration. Et c'est à peu près le bon niveau de détail pour faire rédiger une publication ensuite. Donc, tout le monde gagne, je pense, à mécaniser ces démonstrations, de ce point de vue-là. Un autre aspect que je trouve sympathique, c'est qu'on a une interface commune, à savoir les différentes sémantiques du langage IMP, enfin la syntaxe abstraite et les différentes sémantiques du langage IMP, qu'on a montré toutes équivalentes entre elles, et à partir desquelles on a montré la correction et la préservation sémantique pour nos différents morceaux et nos différents composants. Et du coup, on a des morceaux qui s'assemblent. D'accord ? C'est le même langage IMP qui est analysé par l'analyseur statique et compilé par le compilateur que je vous ai montré. D'accord. Et puis, le dernier avantage que je vois à la mécanisation, c'est que ça permet d'explorer en toute sécurité, en toute confiance, des approches avancées, si vous me pardonnez cet anglicisme, ou des approches non triviales, comme par exemple les syntaxes intrinsèquement typées, le typage sémantique, dont parlait brièvement Derek Dreyer la semaine dernière, donc l'idée qu'on peut définir un système de type, non pas par des règles d'inférence, mais directement en termes de la sémantique dynamique. Les approches co-inductives, que j'aime beaucoup, mais que je n'ose pas trop utiliser sur papier, parce que je n'ai pas très confiance en moi. Et dans tous ces cas, dans tous ces exemples, si on fait les choses entièrement sur papier, on a toujours des doutes sur, finalement, est-ce que on n'a pas oublié quelque chose, qu'on n'a pas raté quelque chose, est-ce que ce n'est pas trop simple, trop facile pour être vrai. Alors, il reste des défis. Un défi évident, c'est le passage à plus grande échelle. D'accord, on a formalisé des langages tout petits, IMP, lambda calcul typé. Jusqu'où on peut aller vers des vrais langages du monde réel, comme on dit. Il y a eu quelques exemples qui ont été décrits ou mentionnés dans les séminaires. Donc le projet JSCert pour la sémantique de JavaScript, les projets CompCert et Verasco pour la compilation et l'analyse statique de C, le projet RustBelt, donc autour du langage Rust, le compilateur vérifié KKML pour un langage fonctionnel. En toute franchise, pour l'avoir fait dans le cadre de CompCert sur le langage C, l'effort pour formaliser un tel vrai langage du monde réel est considérable, voire déraisonnable. La spécification JSCert arrive à une telle taille que même Coq a du mal à la gérer, tellement il y a de règles. D'accord. Et du coup, on ne sait pas trop quoi faire. Idéalement, ce serait d'avoir des langages de programmation un peu mieux conçus dans le monde réel, mais peut-être trop tard pour ça. Quand même quelque chose à garder en tête pour l'avenir. Après, on peut aussi se dire qu'on a besoin de meilleurs outils. Et il existe des formalismes et des outils spécialisés pour décrire des langages. Par exemple, PLT-REDEX, dans mon scheme, HOT, le formalisme K, qui est issu de théorie de la réécriture, qui sont très efficaces pour certains usages. Typiquement, par exemple, PLT-REDEX vous permet d'avoir très très vite un interprète pour votre langage, quelque chose qui tourne. Le formalisme K permet d'avoir des interprètes très efficaces donc, qui peuvent être utilisés pour tester des vrais programmes. HOT produit du LaTeX très joli, des règles d'inférence en LaTeX très joli que vous pouvez mettre tout de suite dans vos articles. Donc voilà des exemples d'usages où ça marche très très bien. Le peu que j'ai vu, aucun de ces systèmes n'est très utile pour construire des spécifications adaptées à la preuve formelle. Bon, HOT peut produire du COQ ou du HOL, mais ce n'est pas tellement plus facile que de l'écrire directement. Et donc, voilà. Et l'autre défi, c'est la réutilisation, ou plutôt l'absence de réutilisation qu'on constate aujourd'hui. Donc il y a quelques bibliothèques de définition et de théorèmes qui sont clairement réutilisables dans notre domaine. Tout ce qui tourne autour des variables et des lieux, encore une fois, il y a plusieurs bibliothèques et outils pour aider l'utilisation des indices de De Bruyne, aussi un peu pour l'autre approche, locally nameless. Pour les logiques de programme, il y a eu un grand progrès qui a été fait récemment avec IRIS, donc c'est ce cadre général pour définir des logiques qui est apparu un peu en marge de Rust Belt. Donc IRIS, c'est vraiment une très belle bibliothèque pour ensuite pouvoir construire assez facilement une logique de programme pour le langage qui vous intéresse. Si vous voulez faire la sémantique dénotationnelle, il y a de bonnes bibliothèques de domaine de Scott. Pour l'analyse statique aussi, on devrait pouvoir réutiliser des bibliothèques de domaine abstrait. Quand on a fait Verasco, on voulait vraiment avoir des domaines abstraits facilement réutilisables. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, parce qu'on a été obligé de leur donner des interfaces assez riches quand même. Mais bon. Mais à la fin, l'essentiel, enfin la description d'un langage, sa syntaxe, sa sémantique, son typage, reste essentiellement monolithique et non réutilisable autrement que par couper-coller. Bon. C'est ainsi. C'est peut-être mieux que de ne pas pouvoir réutiliser du tout. On peut là aussi s'interroger sur est-ce qu'il y aurait une approche radicalement différente qui permettrait de réutiliser un peu plus, ou d'autres outils. De même, il y a beaucoup de « on repart à zéro » avec une autre approche. Dans les grandes formalisations dont je vous parle, il n'y a pas... Très franchement, ne serait-ce que les styles sémantiques utilisés, par exemple, ne sont pas les mêmes. D'accord. Après, c'est bien, parce que ça permet d'explorer, de voir lesquels fonctionnent bien, lesquels ne fonctionnent pas bien, puis après, on peut toujours faire des preuves d'équivalence. D'un autre côté, il y a un moment, peut-être, où il faudra arrêter de réinventer une nouvelle approche de faire la sémantique d'un langage à chaque fois qu'on a envie de faire la sémantique d'un langage. Et puis, il reste une certaine fragmentation entre les différents assistants à la démonstration et leur communauté d'utilisateurs. Alors peut-être un peu moins dans le monde de la théorie des langages de programmation que dans le monde des mathématiques sur ordinateur, où on voit une certaine prolifération entre l'école Mizar, l'école Isabelle Achoel, l'école Koch Mathematical Components, et puis l'école Lean, où chacun est en train de reconstruire des bibliothèques mathématiques, d'algèbre, etc. Bon. Bon, dans le monde des langages de programmation, il y a peut-être un peu moins de dispersion, un peu moins de reconstruction, mais malgré tout, il y a de très beaux développements en HOL, par exemple, que j'aimerais bien utiliser dans le cadre de Koch, parce que moi, je ne connais pas HOL, et je ne sais pas trop comment faire. Voilà, et en conclusion, dernier mot peut-être, je pense que la mécanisation, c'est une des meilleures choses qui soit arrivée à la recherche en langage de programmation ces 20 dernières années. Ça a vraiment changé la manière dont on aborde les problèmes de recherche. Et je ne peux que vous encourager, et tout le reste de la communauté, à en tirer pleinement parti. Voilà, je vous remercie.